Il y a dans la parole de Dieu quelques versets qui nous en disent long sur ce que Dieu peut faire, comment Dieu peut changer le mal en bien. Acte 6, c'est le verset 7. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à la fin du verset 7. C'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien, acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est cette parole que je voudrais que nous retenions pour introduire cette exhortation. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. N'oubliez pas que quelques mois avant, ces sacrificateurs vociféraient tous « Crucifie-le, crucifie-le ». Et là, le Saint-Esprit a agi, le Saint-Esprit a manifesté sa puissance, et qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'une pas 4 ou 5. Est-ce que vous réalisez le miracle? Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ça ne vous réjouit pas, ça? C'est une bénédiction. Et ça nous encourage que dans un monde qui est contre Dieu, s'il y a une action du Saint-Esprit, eh bien, il peut y avoir une grande foule d'irreligieux ou de religieux qui se mettent à obéir au Seigneur. Le sujet de ma prédication ce soir se trouve dans les Éphésiens, au chapitre 5. C'est quelque chose que nous connaissons pour ainsi dire par cœur, mais il est certainement nécessaire que nous le réentendions. Si vous avez lu l'épître de Paul aux Éphésiens, vous avez vu qu'il y a vraiment une gradation dans l'attitude spirituelle. Les trois premiers chapitres nous parlent de notre position en Christ, les trois derniers chapitres nous parlent de notre comportement. Par exemple, dans le chapitre 1er, dans le chapitre 2, il est dit, au verset 6, c'est bien que nous le réalisions. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui a été écrit à ce sujet de Washmani qui s'appelle « Atraci, marcher, tenir ferme ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un livre excellent, vous pouvez vous le procurer. Je sais qu'il y est de temps en temps à la bibliothèque. Éphésiens chapitre 2, verset 6, donc c'est notre position en Christ, nous étions dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a ressuscités ensemble, parce que Dieu nous a donné une vie nouvelle, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui commence sa vie chrétienne dans le repos. Est-ce que vous réalisez le repos que nous avons en Jésus-Christ? Lorsque quelqu'un vient en Jésus-Christ, il entre dans le repos. Il ne peut pas faire autrement. S'il n'entre pas dans le repos, ça ne sera jamais un bon chrétien. Ça sera un chrétien tout le temps égaré. Un chrétien, il est assis. Il est assis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour vous expliquer que ça commence comme ça. À partir du chapitre 5, nous voyons que la vie chrétienne n'est plus une question d'être assis, mais c'est une marche. Éphésiens chapitre 5, verset 2, « Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, etc. » Donc, on voit qu'il nous est demandé de marcher. La première étape, c'est de s'asseoir et d'être dans le repos. La deuxième, bien sûr, on ne peut pas rester inactif, il y a une marche dans l'amour. Et la troisième étape, c'est une marche dans le fait de combattre le bon combat. Éphésiens chapitre 6, verset 10, voilà, là on n'est plus dans le sens du repos et de la marche, on est dans le sens du bon combat. Un chrétien, il a une vie équilibrée lorsqu'il conjugue ces trois affaires. Éphésiens chapitre 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul ne dit pas prier pour moi pour que je sorte de prison, il est en prison. Il demande à Dieu que son ministère soit utile là où Dieu l'a placé. Et au verset 18 du chapitre 5, je reviens en arrière volontairement, n'oubliez pas, le verset 17, Éphésiens 5, 17, je reviens en arrière esprit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Voilà donc le programme. D'un côté, on est dans le repos. Ce qui a fragilisé l'Église, c'est que beaucoup de chrétiens ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ne sont jamais rentrés dans le repos. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu obéir. Vous rappelez le commandement ? Venez à moi, vous tous êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Et il ajoute, vous pouvez m'aider ? Recevez mes instructions et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je l'ai déjà expliqué, il y a un repos que Dieu donne, c'est le salut. Mais une fois qu'on est rentré dans le salut, donc on est assis, comme là vous êtes assis, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour porter votre corps, vous. D'accord ? Hein ? Voilà, d'accord. Mais il y a après ceux qui, quand on est debout, savent qu'il faut faire un effort pour supporter son corps. Il y a un repos. Une fois qu'on est assis, il y a la possibilité d'écouter et de recevoir. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Il y a un repos que l'on trouve lorsqu'on obéit. Alors, vous avez vu, le programme, il est là. Qu'est-ce que Dieu veut ? Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Vous entendez ? S'il y a bien quelque chose qui amène la bénédiction sur l'Église, c'est que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Que cette vie de grâce déborde. Que cette vie de grâce soit là. Mais il faut recevoir les instructions. Et ce que Dieu dit, il faut le faire. Et ce que Dieu dit, il faut le croire. Vous vous rappelez d'Abraham ? Il nous a dit qu'il n'a pas faibli dans la foi. Vous vous rappelez ce qu'il a fait ? Vous vous rappelez ce qu'il a fait, Abraham ? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham, quand il nous a dit dans les Romains qu'il n'a pas faibli dans la foi ? Voilà, il a donné gloire à Dieu. On va le lire. Gardez la page. Mais quand même, ça vaut vraiment le coup de regarder ce qui s'est passé. Dans Romains, au chapitre 4, il avait reçu une promesse. Je ne sais pas si Dieu vous a fait des promesses, au fait. Tiens donc, est-ce que Dieu vous a déjà fait des promesses ? Eh bien, il y en a des promesses. Et vous pouvez les croire, les promesses. Croyez-moi. Romains, au chapitre 4, il a fait une promesse. Il est quand même affligé parfois. 25 ans ont passé, il a fait une erreur. Il a fait une grosse erreur. Mais ça ne fait rien. Il continue, Romains chapitre 4, verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné gloire à Dieu. Vous savez, c'est une chose de chanter des cantiques. Même si certains ne les connaissent pas, c'est pas grave. Mais c'est une chose de chanter des cantiques, ça n'est une autre de le faire avec son cœur et de donner vraiment gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse ? Il n'avait rien d'autre à faire, il a donné gloire à Dieu, verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La pleine conviction, ça nous ramène à l'affaire d'être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a les yeux fixés sur le Seigneur, il ne pourra pas faire autrement que d'avoir une pleine conviction. Le temps a passé, ça semblait très 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 long, 25 ans ont passé, et lui il a dit « je ne faiblirai pas, comment je serai fortifié ?» en donnant gloire à Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Vous avez remarqué, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a des verbes qui sont utilisés. Éphésiens chapitre 5. Qu'est-ce qui nous est demandé pour être rempli du Saint-Esprit ? Justement, c'est ça. C'est très simple. Est-ce que vous le faites? Est-ce que nous le faisons? Pas à l'église, parce qu'à l'église, c'est facile de le faire. S'il y a bien un endroit où c'est facile de le faire, c'est bien à l'église. Oui ou non? Mais c'est sûr. Éphésiens chapitre 5, mais à la maison. À la maison. Entretenez-vous. Par quoi il faut s'entretenir, alors? Par la télé. Non? Comment vous avez? Excusez-moi. Là, j'ai des petits problèmes de vue. Entretenez-vous par des psaumes, c'est-à-dire par la parole. Les psaumes, c'est toute la parole. Est-ce que vous... Mais les psaumes sont quand même des hymnes de victoire aussi, des hymnes, des expériences. Entretenez-vous. Ça doit être un entretien, ça doit être quelque chose qui doit être continuel. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Les cantiques, il faut qu'ils soient spirituels. Quand on chante, il ne faut pas chanter n'importe quoi. Il faut chanter des cantiques spirituels qui glorifient le nom du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous aimez chanter? Vous chantez? Vous déchantez? Est-ce que vous chantez? Chez vous, est-ce que vous chantez quand vous êtes dans la maison? Est-ce que vous aimez chanter? Vous aimez chanter? Vous chantez quoi? Les chansons de Serge Lama, je suis malade. Je dis ça parce qu'une fois j'entendais aux infos une femme qui disait, ah, mais moi je suis bien quand je chante, je suis malade de Serge Lama. Et je dis, mais moi je préfère chanter que je suis guéri. Hein. Alors bon, bien sûr, c'est une façon de parler. Mais quand même, c'est pour vous expliquer que, il y a, moi je sais pas, mais moi je veux dire, je sais bien, la chanson c'est une chanson. Mais quand même, il faut s'entretenir, je crois, par des chants profonds. Quel grade de chanter, tenons de l'âme propre, tenons de l'âme prête. C'est pas beau ça, hein? Tenons de l'âme prête, chrétiens, préparons-nous tous ensemble, nous nous entretenons. Oui, nous voulons que nos lampes soient prêtes, parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas les lampes pleines d'huile. Beaucoup d'autres chrétiens ont la lampe vide, et le résultat c'est qu'ils ne seront pas prêts. Que quand Jésus reviendra, ils ne seront pas prêts. Un chrétien, il combat le bon combat de la foi. C'est un ordre qui a été donné à un jeune pasteur. Combat le bon combat de la foi. Cet ordre, il n'est pas donné qu'aux serviteurs de Dieu. Il est donné à tous les chrétiens. La joie de combattre le bon combat, pas les mauvais combats. Le mauvais combat, il est présenté. Il est présenté quand il est dit au verset 12. C'est quand même un drame de voir tant de chrétiens qui ont rétrogradé parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un combat contre la puissance des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Contre la chair et le sang. Et des fois, on a vite fait de se tromper, de combattre contre les gens, contre lui, contre elle. Mais n'oublions pas qu'il ne faut pas lutter contre la chair et le sang. Vous savez, l'ennemi, il est rusé. Il essaie de nous irriter. Il essaie de tout faire pour que nous nous irritions. Et à force de s'irriter, qu'est-ce qui peut se passer? Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Et quand on combat contre la chair et le sang, que nous nous rendions compte ou pas, nous finissons par donner accès au diable. Et lorsque la parole de Dieu est prêchée, nous n'entendons rien, nous ne voyons rien. Nous entendons peut-être avec nos oreilles physiques, mais nous n'entendons pas avec les oreilles de notre cœur. Parce que la parole de Dieu, il ne faut pas qu'elle soit dans notre tête, la parole de Dieu, il faut qu'elle soit dans notre cœur. Quand l'ange Gabriel dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu, il n'y a rien de plus facile que de retenir ce verset. Oui ou non ? On peut tous apprendre, je crois que c'est Luc 1, 35 ou 37, rien n'est impossible à Dieu. Voilà, vous pouvez là, on le répète 10 fois, et demain matin, vous le répétez 5 fois, 10 fois, et vous pourrez dire à quelqu'un, tu sais, moi je sais maintenant, Luc 1, 35, 37, rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a déjà, ils peuvent le répéter, ça ne changera rien du tout. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que c'est que là. Cette parole, il faut qu'elle soit là-dedans. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque le Seigneur nous demande de... Ces choses, elles sont toutes simples, même si on les répète, si on les comprend. Mes frères et sœurs, vous le croyez qu'à Toulouse, une grande foule de religieux peuvent se convertir? Vous le croyez qu'en Nouvelle-Calédonie, une grande foule d'hommes et de femmes peuvent se tourner vers Dieu, etc. Oui, à condition que nous, les chrétiens, nous fassions ce que Dieu nous demande. Vous serez mes témoins. Mes frères et sœurs, notre témoignage est important. Nous devons faire partie de ces gens qui sont remplis du Saint-Esprit. L'autre jour, je ne sais pas où je me trouvais, quelqu'un était très, comme partout d'ailleurs, quelqu'un était négatif, mais négatif. Et on m'a dit, et vous inquiétez? Non, je ne m'inquiète pas.
Pourquoi ? Eh bien parce que je suis chrétien. Ah ben nous, on est chrétien. Je dis, peut-être pas tout à fait pareil. Mes frères et sœurs, Jésus, il a demandé, il l'a dit, en plus, il n'était pas obligé. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est ça la vérité pour ceinture. Je m'arme de cette protection. J'ai besoin d'être protégé. On a besoin d'être protégé. Et ça commence par cet incident, oui, je veux être rempli du Saint-Esprit. Bien sûr qu'il y a tous les dons spirituels, etc., utiles à l'Église, mais il y a aussi cet entretien, je veux chanter des cantiques, je veux lire la parole de Dieu, je veux me retrouver avec des frères, avec des sœurs. Vous aimez vous retrouver avec les frères et sœurs? Oui? C'est important de se retrouver? Eh oui, c'est important. On aime se retrouver avec les frères, avec les sœurs. C'est un immense bienfait, la communion fraternelle. Vous voyez, la communion célébrée, rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que 24 heures sur 24, il faut remercier Dieu, se mettre à genoux pendant 24 heures? C'est pas ça que ça veut dire. C'est comme quand il est dit prier en tout temps. Ça veut pas dire, ah bon, il faut prier 24 heures sur 24. Non, ça veut dire que c'est un état d'esprit. En tout temps, ça veut dire, eh bien, des fois, je suis pas bien. Je passe une mauvaise semaine. Je suis fatigué. Je suis dans la victoire. Est-ce que c'est bien de prier dans la victoire? Est-ce qu'il faut aussi prier quand on est dans la défaite? Eh bien voilà, il faut prier quand on est en vacances, il faut prier quand on est malade, il faut prier. Il y a des gens quand ils souffrent, oh non, j'en ai marre, je comprends pas, j'en ai marre, j'arrête de prier. Pourtant c'est écrit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Peut-être ça veut dire surtout qu'il écoute, hein, parce que prier ça ne veut pas dire que parler. Il n'est pas dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il parle à Dieu. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il écoute. Parce que Dieu a peut-être quelque chose à lui montrer dans la souffrance. Prier en tout temps, ça veut dire quoi que ce soit qui se passe, eh bien je prierai. Quoi que ce soit qui arrive, je prierai. Je prierai quand je serai jeune, je prierai quand je serai vieux, ça y est. Je prierai quand ça sera bien. Je prierai en tout temps. Rendez continuellement grâce. Seigneur, je veux te rendre grâce. C'est comme ça que les chrétiens rendent un bon témoignage. Vous avez tous rencontré, c'est dommage de le dire, mais quand même on peut le dire aussi. Vous n'avez pas rencontré des chrétiens qui sont tout le temps négatifs? Moi, je me souviens quand j'étais arrivé pasteur à Groyer, il y avait une vingtaine de chrétiens, c'était une église qui était dans la défaite. Et ça faisait des années que ça durait, et cette église devait devenir une annexe d'Albi. Et les chrétiens, le dimanche, si vous voulez, parce que c'est une chose, Seigneur, je te loue pour le salut de mon âme, je te remercie parce que tu m'as sauvé, ta. Et à la sortie du culte, ouais, ils étaient négatifs. Et moi, je n'avais pas la pédagogie que j'ai aujourd'hui, vous voyez, j'avais moins d'expérience. Et ça faisait quoi, un mois que j'étais là, un mois et demi. Je leur ai dit, vous êtes bizarres les chrétiens. Vous louez Dieu pendant le culte, et après le culte, vous louez le diable. Alors, ils se sont tous tus, et puis ils se sont regardés et dit, mais il a raison. Ils ont tous réagi, et ils ont arrêté. Et à la sortie du culte, il dit, oui, le Seigneur, il peut bénir, là, c'est la ville. Il y a les guérisseurs, il y a le chômage. Mais ça ne fait rien. Ils ont vraiment écouté. Vous voyez, ils ont pas mal réagi. Et le résultat, c'est qu'on a gagné des âmes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un commandement. On ne rend pas grâce à Dieu pendant les chants. On ne rend pas grâce à Dieu quand on est là, dans la communion fraternelle, qu'on va faire des comptes rendus de certaines choses qui se sont passées dans tel ou tel endroit. Oui, il faut le faire. Mais en sortant, mes frères et sœurs, rendez grâce à Dieu. Remerciez-le. Remerciez-le maintenant. Remerciez-le tout à l'heure. Remerciez-le demain matin, Seigneur. Oui, je veux te rendre. Pourquoi Dieu nous demande ça? Parce que c'est important que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Et c'est pas écrit que là. Regardez dans Thessaloniciens. Ce sont des commandements. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose que le diable veut, c'est de sortir de ce repos. Pourquoi? Pour qu'on soit dans la défaite. Et pour qu'on rétrograde. Quand on ne prie plus comme Dieu nous le demande, ce n'est qu'une question de temps, on rétrogradera. Ça prendra 3 mois, ça prendra 6 mois, ça prendra 1 an, mais laissez-moi vous dire qu'une plante, quand vous ne l'arrosez pas, elle finira par mourir. C'est obligatoire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ce sont des commandements. Alors, il faut bien sûr les expliquer. Quand il est dit 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. Alors, est-ce que c'est possible d'être toujours joyeux? Dites-moi. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Est-ce qu'on peut être toujours joyeux? On peut avoir le cœur rempli de fardeaux, mais avoir toujours la joie du salut. Cette joie dont parle l'apôtre Paul, vous comprenez bien que ce n'est pas une joie factice, une joie mondaine, une joie irresponsable. C'est la joie du salut. Quand Jésus dit à ses apôtres qui reviennent, excités comme tout, parce qu'ils ont fait des choses merveilleuses, et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ça veut dire, en français courant, ne vous réjouissez pas du résultat, parce que le résultat, ça va, ça vient. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, on peut toujours s'en réjouir. Et quand Dieu dit, bien sûr, soyez toujours joyeux, ou alors il se contredirait. Paul dit ça, Jésus dit à chaque jour, suffit sa peine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il doit y avoir une joie. C'est pour ça que moi je dis presque à tout le temps aux meneurs de chant, commencez les réunions par un chant sur la joie du salut. Parce que nous le voulions ou non, même si nous sommes fatigués, même si nous sommes dans le deuil, ça peut arriver que quelqu'un vienne dans le deuil, quelqu'un vienne parce qu'il a passé une mauvaise semaine, quand même, on peut toujours commencer nos réunions avec un cantique sur la joie que nous avons d'avoir obtenu le salut. Oui ou non? Vous voyez, réjouissez-vous toujours. Donc oui, je suis pas en forme en ce moment, j'ai traversé le deuil, mais je me réjouis parce que mon nom il est inscrit dans le livre de vie. Et ces commandements, il faut les prendre au sérieux, c'est des mots, trois mots. Mais quand même, recevez mes instructions. Vous voyez, c'est comme ça qu'on est dans le repos et que l'on peut marcher. Et après, bien sûr, que l'on peut combattre le bon combat. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. C'est cette notion de dire, quoi que ce soit qui se passe, je persévérerai dans la prière. Quand vous voyez David, il a eu ses hauts, il a eu ses bas, mais vous le voyez, quand il est roi d'Israël et que tout va bien, il prie. Quand il est en train de garder ses moutons, il prie. Quand il est dans la caverne, ou quand il est dans le désert, regardez avec moi, c'est important mes frères et sœurs, parce que ces choses-là, il faut les expliquer, c'est dans le psaume 63. Dans le psaume 63, parce qu'on se dit, oui, David, tout ça, oh, moi je m'identifie à David. Eh bien, si vous vous identifiez à David, eh bien, vous allez bien lire avec moi le psaume 63. Où c'est qu'il est, David? Là, il n'est pas dans son palais, il n'est pas en train de jouer de l'harpe près des eaux paisibles, il est dans une autre configuration. Psaume 63, regardez où il est. Vous avez trouvé les psaumes, hein? Psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était, où c'est qu'il est? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie tout balader, j'arrête? Non. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Psaume 142, c'est bien, il faut le lire. Il faut le lire ça, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire, prier sans cesse? Eh bien, ça veut dire, voilà, il est dans le désert. Est-ce qu'il a bien fait, au fait, de prier dans le désert? Vous êtes sûr qu'il a bien fait? Eh bien oui. Psaume 142. Où c'est qu'il est dans le psaume 42? Oui. Où est-ce qu'il est? Dans une caverne. Lorsqu'il était dans la caverne. Vous voyez, le Saint-Esprit a voulu que l'on sache où il était. Il est dans la caverne. C'est l'image vraiment de l'endroit misérable. Il est là, il se cache. Priez de ma voix. Je crie à l'Éternel. Est-ce qu'il a bien fait? Et on pourrait multiplier les autres exemples. Quand vous lisez les psaumes, regardez l'introduction. Prier en tout temps, prier sans cesse, c'est ce qu'il a fait. Et il a bien fait. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir. Peut-être que vous passez un moment facile. Peut-être que vous êtes dans un moment difficile. Je ne sais pas. Mais j'ai presque envie de vous dire, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous receviez ces commandements. Oui, je me réjouirai de mon salut. Il n'y a peut-être pas de quoi se réjouir en ce moment. Je suis affligé parce que je n'ai pas obtenu mon poste ou je n'ai pas obtenu encore. Eh bien oui, mais persévérez. Persévérez, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Combien de croyants sur la terre? Sérieusement, combien de croyants? On dit qu'il y a combien de catholiques sur la terre? De chrétiens catholiques, de chrétiens orthodoxes. On dit qu'il y en a combien? Vous le savez? Comment? Oui. On dit qu'il y a entre 1,5 milliard et 2 milliards de croyants. Combien de gens récitent ou prient? Je ne peux pas savoir. Le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite. Monsieur de Dieu, vous le copierez 50 fois. Que ta volonté soit faite. que ta volonté... Oui, combien de chrétiens, le même de chrétiens, le prie. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, on l'a lu dans Éphésiens. Soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous. On vient de le lire. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Oui. Je ne comprends pas. Relisez le livre. Moi, je vous le dis souvent. Lisez l'histoire de Joseph. Ce jeune homme, 17 ans, à qui on a cassé la figure. On l'a vendu comme esclave. C'est par ses propres frères. Pas par des brigands, par ses frères. Et qui accepte toutes ces épreuves. Et on voit qu'il accepte. Pourquoi ? Parce que quand il est à la maison de Potiphar, il nous est dit, l'Éternel était avec Joseph. Quand il est dans la prison de Pharaon, l'Éternel était avec Joseph. Il est dans cet état de grâce. Il rend grâce. Il le fait peut-être pas à haute voix, mais il le fait dans son cœur. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, c'est vrai, mes études n'ont pas été celles que j'aurais aimées. Mais vous croyez que Dieu ne peut pas vous orienter vers autre chose ? Rendez grâce en toutes choses. Comment un chrétien peut combattre le bon combat quand il commence à s'asseoir dans le repos, à marcher dans l'amour, dans la confiance ? À partir de là, il peut s'équiper. Revêtez-vous de toutes les armes. C'est quand même formidable. La vérité pour ceinture, la vérité. La vérité, c'est aujourd'hui, ça fait deux ou trois jours que je pense à un verset, c'est le troisième commandement d'ailleurs. Vous les connaissez les 10 commandements ? Nicolas. Troisième commandement, ne prenez pas le nom de l'Éternel en vain. Car celui qui prend le nom de l'Éternel en vain ne restera pas impuni. Combien de chrétiens prennent le nom du Seigneur en vain ? Oui ou non ? Et le Seigneur m'a montré, et le Seigneur m'a dit, mes frères et sœurs, il vaut mieux dire « j'ai à cœur ». Ou alors je te dis tout simplement ça. Mais mes frères et sœurs, la vérité, c'est important, vous voyez. Ce sont des petits détails. Enfin, des petits détails. Ce n'est pas des petits détails, c'est important. Mes frères et sœurs, la vérité pour ceinture, je suis sérieux. Dieu a dit quelque chose, je suis sérieux. Je le fais. Dieu me demande d'être rempli du Saint-Esprit, eh bien je vais m'y atteler. Ce n'est pas une question d'avoir les dons. Est-ce qu'on peut tous aspirer aux dons spirituels ? Oui. Est-ce que c'est écrit ? Oui, c'est écrit. Mais ce n'est pas une question d'obtenir un don pour l'exercer. J'espère que tous vous aspirez aux dons les meilleurs. Mais pour mon témoignage, je veux rendre un bon témoignage. Pas pour frimer, être meilleur que les autres. Pour glorifier le Seigneur. Vous ne croyez pas que les gens que vous côtoyez autour de vous, ils ont besoin de voir la paix ? L'autre jour, j'ai été à la banque pour un papier et il y a le directeur qui m'appelle. Parce qu'une fois, j'avais discuté avec lui, il m'a dit, je me rappellerai toujours de votre nom, monsieur Lucas, parce qu'il s'appelle Jonathan Lucas, comme mes deux enfants. Alors, et l'autre jour, il m'a vu, il m'appelle, il me dit, monsieur Hugo, je peux vous parler ? Il me dit, je voudrais parler, je crois pas en Dieu, mais je voudrais parler du Seigneur Jésus avec vous. Quand je vois vos deux fils, quand je vois le témoignage qu'ils donnent, je suis persuadé qu'ils ont la paix, ces garçons. C'est pour ça que j'aimerais parler de Jésus avec vous. Ah, je dis, c'est bien. Et on doit prendre rendez-vous. Est-ce que c'est important de procurer la paix ? Comment procurer la paix autour de nous si on ne marche pas dans le repos, si on ne marche pas dans l'amour et si on ne cède pas à ses commandements bénis ? Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et là encore, j'y reviens, ce n'est pas une question de bonheur lié à des circonstances, c'est un bonheur lié à la paix que nous obtenons parce que Dieu est un Dieu de paix. Il donne la paix. Et pour que nous ayons la paix, il n'a pas lésiné, excusez-moi. Mais quand même, il est quand même dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc pour qu'on ait la paix, moi je trouve que le Seigneur, il a vraiment payé cher. Et ce soir, on peut tous repartir avec cette paix, cette grâce. Quelqu'un qui est revêtu de toutes les armes, eh bien, il va s'appliquer. Est-ce que c'est écrit « Appliquez-vous à votre salut avec crainte et tremblement » ? C'est écrit, eh bien, je lis la Bible, moi je vois, il y a des gens, je me souviens de cette sœur qui est partie auprès du Seigneur, mais je vous le dis parce que ça m'avait fait de la peine. Elle vient me voir le matin, elle me dit « Voilà, monsieur Go, mon mari il m'énerve, bon, il n'était pas chrétien, mais enfin, mon mari, tout ça, il a un comportement de païen, et qu'est-ce qu'il fait de si grave ?» Il me dit « Il boit un verre de vin au repas. » Ah bon ? Oui, c'est pas. Dieu veut pas qu'on boive du vin. Ah bon ? J'ai dit, écoutez, on va lire la Bible. Alors, on prend la Bible. Je dis, vous pouvez lire avec moi dans Timothée. Alors, on va le faire, regardez. on va dans Timothée, je dis, mais moi je suis. Alors elle était là, elle ronchonnait. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça, vous voyez, ils ont un témoignage formidable. Vous voyez? Alors, je lui dis, mais vous. Alors je lui dis, mais vous avez déjà lu Timothée? Ah mais oui, monsieur, par cœur. En plus, vous voyez? Eh bien, j'ai dit, on va lire dans 2 Timothée au chapitre 5. Voilà, si vous voulez bien. Alors je lui lis 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Alors, je vois sa tête encore, vous voyez. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Elle restait la bouche, vous savez, ouverte. J'ai dit, vous l'avez lu? Ah, mais monsieur Gros, je l'ai lu plein de fois. J'ai dit, mais bien sûr qu'il faut être sobre, bien sûr. Mais dans le vin, il y a du tanin. Et le tanin, si vous regardez dans un bouquin de médecine, ça fortifie les parois de l'estomac. Et Timothée avait des petits problèmes d'estomac, et il lui conseille de boire un peu de vin. Et bien, je dis, mais vous ne l'avez pas lu? Ah, mais si, mais je l'ai lu plusieurs fois. Mes frères et sœurs, à vos reins, la vérité pour ceinture, c'est sérieux. Quand je lis, il y a des gens, mais c'est la preuve, c'était une brave sœur, mais c'est la preuve qu'il y a des gens qui lisent pour lire. Et il vaut mieux prendre 5 ou 6 versets, s'y arrêter, et dire voilà, qu'est-ce que ça. Moi, ce matin, je lisais des textes sur l'Exode, sur le Lévitique, des textes que, dans votre livre préféré, je sais. Hein, mais c'est difficile à comprendre. Mais je vous assure, ça vaut la peine de les lire. Mais il ne faut pas lire 6 chapitres comme ça. Il faut lire 3 versets et réfléchir. Mes frères et sœurs, vous voulez tenir ferme jusqu'à la fin? Vous voulez être debout quand Jésus viendra? Vous voulez que la porte du royaume soit, comme dit l'apôtre Pierre, soit largement ouverte? Eh bien, restons assis dans les lieux célestes, marchons dans l'amour de Dieu, ayons à nos reins la vérité pour ceinture. Je vais recommencer à lire la Bible, je vais recommencer à lire le sermon sur la montagne. Tiens, peut-être que moi qui crois connaître le sermon sur la montagne par cœur, eh bien je vais le relire. Vous savez, le sermon sur la montagne, c'est une drôle de prédication. Je vais, tiens, méditer le Notre Père, plutôt que de le réciter ou de le prier même. Je vais lire les textes sur la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, elle est bonne, mes frères et sœurs. Et lorsque je rends grâce, lorsque je chante avec des frères, avec des sœurs, lorsque je viens dans la maison du Seigneur, il y a une grâce sur les chrétiens. C'est pour ça que nous devons nous faire violence. Oui, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Soumettez-vous les uns aux autres. Est-ce que c'est bien dans une église quand on se soumet les uns aux autres? Oui ou non? Ah non, monsieur Gau, moi j'écoute que le Saint-Esprit. Moi je ne vous écoute pas. Mais vous savez, quand c'est la parole de Dieu, ça vous montre l'état d'esprit dans lequel les gens sont. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a une joie de vivre dans l'intersoumission. Oui ou non? Et si vous n'êtes quelqu'un de pas soumis, moi je fais ce que je veux, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, il doit être un peu loin de vous. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a un respect des autres, il y a un respect des uns, et ça, ça plaît à Dieu. Vous voyez, c'est important. Il y a des gens qui disent, ah non, moi c'est moi, je fais ci, moi j'ai telle autorité, je ne me soumets pas. Eh bien, ce n'est pas vrai. On se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, pour terminer, on relit juste le verset 10 jusqu'au verset 17, c'est quand même bien de les relire. Peut-être on n'a pas le temps parce que c'est l'heure à tourner, mais quand même, est-ce que ça vaut pas la peine de lire comment un homme peut être fortifié? Vous voyez, Abraham, il a rendu grâce à Dieu, il a rendu gloire. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Qu'il consulte les gynécologues du coin? Sa femme était ménopausée. Non mais franchement, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Qu'il construise une arche pour imiter Noé? Qu'il tue un géant comme David? Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? C'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose pour faire quelque chose, mais de rendre gloire à Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Il a rendu gloire à Dieu. Et ça, ça a dû plaire au Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Je ferai ce que tu me demandes. Ce soir, Seigneur, tu m'as rappelé des choses simples, mais je vais les vivre. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. N'oubliez pas, comme cela a été bien dit dans les chants, il règne, et lors sur son trône, il était, pendant le déluge, il était sur son trône. Revêtez-vous. Voilà, ça c'est à nous de le faire. Tous les verbes, ce sont des verbes actifs qui nous indiquent que c'est à nous de le faire. comme on l'a lu. Voyez, entretenez-vous, chantez, célébrez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. D'accord ? Verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu. Dieu le fera pas. Hein. Dieu le fera pas à votre place. Hein. Croyez-moi. Hein. Tenez donc ferme. Verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est pas... Moi, il y a quelqu'un qui me disait un jour, oh, moi, je n'en ai pas besoin, moi. Moi, je suis optimiste. Je n'ai pas besoin du bouclier de la foi. Je dis, mais vous savez, l'optimisme, c'est un bouclier en carton. Ça brûle vite. L'optimisme, c'est bien. Bien sûr, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans la parole de Dieu, il ne nous est pas demandé d'être optimiste. Dans la parole de Dieu, il nous est demandé d'être réaliste. Et quelqu'un d'intelligent, dans la parole de Dieu, il s'arme du bouclier de la foi, avec lequel il pourra éteindre tous les traits enflammés du malin. Allez, par-dessus tout, c'est quelque chose d'indispensable. Il faut absolument connaître la parole de Dieu, le bouclier de la foi. Tous les traits, est-ce que vous vous rendez compte? Toutes les attaques, toutes les suggestions, les ruses, tout ce qui est dénoncé dans la parole de Dieu, on peut tous les éteindre. Que le Seigneur soit béni. Ça vous réjouit pas de savoir qu'on peut discerner tous les pièges de l'ennemi? Quelle grâce, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut, parce que oui, le cerveau, il a besoin d'être rassuré, le cerveau, parce que ça, quand même, de temps en temps, vous avouerez que ça chauffe. Oui ou non? Et c'est bien de savoir qu'on est sauvé. Oui ou non? Qu'il n'y a pas besoin de trop le calculer, on est sauvé. Point barre. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, on peut mettre ce casque extraordinaire qui nous protège de ces coups et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Mes frères et sœurs, Dieu y veillera sur ses enfants. Si tu gardes ma parole, qu'est-ce qu'il ajoute le Seigneur Jésus? Je te garderai. C'est écrit où ça, madame? Apocalypse? Ouf. Oui, mais ouf. Si vous n'avez pas répondu dans 30 secondes, vous repartez en Nouvelle-Calédonie. 20 secondes. Et Apocalypse chapitre 3, regardez s'il est beau ce verset. Regardez s'il est beau ce verset. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Madame Catéco, vous repartez à Nouméa. Apocalypse 3, verset 10. Regardez ce verset s'il est beau. Quand même, c'est extraordinaire ça. Ça, c'est, voyez, c'est la grâce vraiment. Quand même. Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la... » Oui, il l'appelle la parole de la persévérance, comme quoi, hein, oui, il faut persévérer. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Il y a des gens qui disent « Oh, moi je vais aller m'installer au Canada, ou je vais aller m'installer à Caracas, il y aura moins de problèmes. » Mes frères et sœurs, la tentation, elle vient sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni, mes frères et sœurs, gardons la parole. Et si ce soir, Dieu vous a parlé, reméditez ces textes. Oui, je partirai en glorifiant Dieu. Demain matin, je me lèverai, je relirai ces textes et ces passages, et je me mettrai à glorifier Dieu. Vous savez, vous pouvez tromper votre pasteur, vous pouvez tromper votre conjoint, vous pouvez tromper vos amis, vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Et quand, dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous glorifiez Dieu, ça lui plaît. Heureux tous ceux qui se confient en toi. Et croyez-moi, il est digne de confiance, le Seigneur.